Ouvrons nos Bibles au livre de Jonas. Le livre de Jonas, je vous donne le temps de trouver ça. Le livre de Jonas, c'est dans l'Ancien Testament, parmi les petits prophètes. Jonas, chapitre 4. Jonas, chapitre 4. L'histoire de Jonas, incroyable, elle est difficile à comprendre, à croire. Hein, de parler aux gens du monde, ils vont dire, ouais, bon, l'histoire de Jonas. Mais vous savez, Jésus y croyait. Et lui-même, il croit, il a cru, il a exprimé sa croyance en le fait que Dieu a pourvu un monstre marin pour sauver la vie de Jonas. Et Jésus dira, Et dira, car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Donc Jésus a exprimé le fait que cette histoire était vraie, mais en plus il s'en sert pour nous exprimer comment lui passera les 3 jours et 3 nuits dans la tombe. Où il admettra, hein, dans Matthieu 12, verset 39, il dira, mais c'est un miracle. Donc, un miracle, ça veut dire, pour que ce soit un miracle, ça veut dire que les lois de la nature ne peuvent pas l'expliquer. Hein, donc, il ne faut pas aller chercher à comprendre. C'est un miracle, mais c'est une réalité. C'est réellement, c'est arrivé. Et nous comprenons que Dieu est souverain, Dieu peut faire tout ce qu'il fait, et je comprends sa souveraineté dans le sens que Dieu peut intervenir sur les circonstances, sur les événements, sur la nature et tout ce qu'il a créé, il peut intervenir dessus. Il laisse l'homme libre d'agir, de prendre des décisions, mais Dieu arrive en se servant sur ce sur quoi il peut intervenir pour amener l'homme à lui, hein, et les plans de Dieu se réalisent. Il laisse l'homme libre et Dieu intervient sur tout ce qui arrive, tout ce qui est autour de nous, même le monde pécheur, il peut intervenir sur eux pour réaliser son plan. Et il l'a toujours réalisé, sinon la croix ne serait pas arrivée au moment où elle est arrivée. Hein. Pas entre autres. Et Dieu est souverain, et c'est sûr, mais et là, il s'est servi d'un monstre marin pour sauver la vie de Jonas. Aussi, l'histoire de Jonas n'est pas là juste pour être une histoire pour fasciner les petits-enfants, hein, dans l'école du dimanche. Parce que c'est sûr que c'est quelque chose pour eux qui les intéresse. Mais ne nous laissons pas distraire. Si le livre, l'histoire de Jonas, ces 4 chapitres ont été préservés par Dieu pendant tous ces siècles pour notre lecture et notre étude, c'est parce que c'est justement pour notre instruction. Hein? Et Paul dira dans 1 Corinthiens 10, il dit « Ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. » Donc il y a un enseignement à tirer de là. Maintenant, le but premier de ce livre de Jonas n'est pas pour nous dire comment les Ninivites se sont repentis et Dieu est revenu sur son jugement, mais plutôt pour nous montrer comment Dieu a travaillé dans la vie de Jonas pour l'amener au point où il voulait. Hein, c'est ça qu'il faut voir. Donc c'est pour ça que Dieu prend justement un épisode dans sa vie. Jonas était un prophète, et certainement que c'était un bon prophète, qui avait Dieu avait pu parler à travers de lui. Mais là, il nous prend juste un chapitre de sa vie, et puis il nous dit, voilà, je vais vous montrer comment Jonas, qui avait un petit problème, et comment j'ai pu l'aider avec son petit problème, et le sortir de là. Hein, et c'est un livre qui nous est donné pour nous encourager, vous dire que même si nous avons encore des petits problèmes, et en général, hein, on en a tous, mais Dieu est prêt et patient pour travailler avec nous, pour nous arriver au point où on peut reconnaître, voir son problème, parce que souvent on est aveugle, on voit mieux les problèmes des autres, n'est-ce pas ? Et on voit plus difficilement nos propres... Pourtant, on se regarde assez souvent dans le miroir, mais on ne voit pas grand-chose. Et on se fâche quand quelqu'un d'autre voit quelque chose et le fait remarquer. Donc, mais Dieu voit. Et dans sa grâce, dans sa patience, eh bien, il va œuvrer chez Jonas pour l'amener là où il veut, pour lui montrer son problème et puis ensuite pour l'aider. Donc, en fait, j'aurais bien voulu avoir le chapitre 5 de Jonas pour voir le fruit. Parce que je sais que quand Dieu commence une œuvre, il l'achève. Je pense que le chapitre 5, c'était vraiment positif. Certainement, la plupart d'entre nous, si notre histoire était là, on n'aurait pas voulu ce chapitre 4. Parce que c'est le chapitre 4 qui fait vraiment ressortir le problème. On aurait préféré terminer avec 3 chapitres, on dirait ça c'est bien. On aime bien les histoires qui se terminent bien et qui font plaisir. Parce que dans le chapitre 1, Jonas se retrouve dans le ventre du grand poisson. Et j'ai pas dit baleine, hein, donc ne le dites pas. Il s'est retrouvé dans le ventre du grand poisson. Dans le chapitre 2, il sort du grand poisson. Et chapitre 3... il va à Ninive, il prêche et les gens se repentent. Donc on dit, mais ça c'est bien là, point final, c'est bon. Non, Dieu ajoute le chapitre 4. Les 3 premiers chapitres c'était pour nous préparer. Et puis là, chapitre 4, c'est là où Dieu travaille. C'est là où il met Jonas dans son atelier. Et il va travailler dessus. Le chapitre 4, en fait, ça nous donne une mauvaise image de Jonas. Mais, vous savez, dans la Bible, très souvent, les meilleures leçons proviennent des mauvais exemples. La Bible ne nous a pas présenté des hommes parfaits, mais elle nous a présenté des hommes avec des défauts, pour que nous puissions nous identifier à eux. Et puis pour que si nous voyons que comment Dieu a agi avec ces hommes-là, et ça nous donne de l'espérance comment il va agir avec nous dans l'état où nous sommes. Et donc c'est rempli de récits, et le récit que nous connaissons le plus, c'est l'histoire du peuple d'Israël, avec toutes ces difficultés, et Dieu pourtant, il a continué avec eux fidèlement. Et donc ce sont des récits qui nous donnent de la confiance et de l'espérance. La première chose que je veux souligner ce matin, c'est l'importance de connaître Dieu. L'importance de connaître Dieu. Alors, nous allons lire le chapitre 4, je vais vous le lire, il est court, Jonas, chapitre 4, verset 1. Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité, parce que la ville de Ninive s'est repentie, et donc Dieu a retiré son jugement. Et donc cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel et dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, et tu te repens du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter ? » Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il voie ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui rongea le ricin et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point où il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit « La mort m'est préférable à la vie ». Dieu dit à Jonas « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin ?» C'est la deuxième fois qu'il pose la même question, hein. Vous vous souvenez, quand Jésus parlait avec Pierre, il dit « M'aimes-tu, Pierre ?» Et puis il lui propose la même question. Vous savez, des fois, le Seigneur, il est en train de... Il continue sur le même sujet. Hein. Alors, verset 9, Dieu dit à Jonas « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin ?» Il répondit « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Et l'Éternel dit « Tu as eu pitié d'un ricin qui t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né en une nuit et qui a péri dans une nuit, et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des animaux sans nombre. » Alors, première chose que nous remarquons, c'est que... au verset 2, on a comme cette impression que Jonas et l'Éternel avaient eu une discussion assez longue, peut-être même, avant le chapitre 1. Hein, avant que le chapitre 1 où Jonas prend une direction opposée de Ninive et part vers Tarsis, qui peut-être était en Espagne à l'époque. Et... il y a eu une longue discussion parce qu'il dit « Mais Dieu, je t'avais dit, hein, c'est ce que je te disais. Hein, » On a l'impression qu'il y avait eu une discussion là. Et dans un sens, il a dit, et Jonas disait « Oui, je savais à l'époque, hein, je le savais, je le sais toujours. Tu es un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté, et tu te repens du mal que tu as voulu. » Il dit « Je savais cela. » Et c'est pour ça que je t'avais discuté avec toi. Parce que, oui, il dit, j'ai vu que tu allais te trouver dans une drôle de situation. Dans ta justice, tu dois condamner la méchanceté de de Ninive. Dans ta justice, tu dois condamner la méchanceté de Ninive. Dans ta bonté, tu dois les avertir. Mais le problème, c'est que si jamais ils se repentent et que toi, tu changes d'avis, eh bien, Israël ne sera pas vengé. Et pour Jonas, ça, c'était un problème. Et il dit, et Dieu, après, tu seras embêté, hein, parce que tu pourras pas nous venger du mal qu'ils ont fait. Et alors, donc, ce que je vais faire, Jonas, il dit, prends les choses en main. Vous savez, ce n'est pas la première fois que les hommes ont essayé de prendre les choses en main pour arranger Dieu. Il prend la chose en main et puis il dit, bon, ce que je vais faire, je ne vais pas leur dire. Tu m'as envoyé pour leur dire, eh ben, je ne vais pas y aller, je vais aller dans l'autre direction. Comme ça, tu seras obligé de les détruire parce que tu as dit que tu vas les détruire. Mais vous savez, même si on est prophète, on ne contrôle pas tout, hein. Si vous avez lu le chapitre 1, vous connaissez l'histoire, c'est que Dieu a envoyé une tempête qui semblait être une tempête locale, qui se trouvait juste autour de ce bateau-là, et pas ailleurs. Les mariniers l'ont bien compris, et ils savaient que ce n'était pas une tempête comme les autres. Et la première chose qu'ils ont réagi, c'est de prier à leur Dieu. Puis après, ils ont été voir Jonas et dit « Pourquoi toi, tu ne pries pas ?» Il dit, mais bon, moi, bon, je suis dans la désobéissance, hein, je ne prie pas. Vous savez, les chrétiens dans la désobéissance, ils ont du mal à prier dans leur vie. Hein. On n'a pas envie de parler à Dieu quand on vit, on sait qu'on est dans la désobéissance. Il leur a dit, mais je suis en train de fuir Dieu. Il dit, mais c'est grave ça, l'Éternel, on connaît l'Éternel des Juifs là. Et on ne s'amuse pas comme ça, pourquoi tu fais ça? Il dit, écoutez, qu'est-ce qu'on va faire pour sortir de là? Parce que nous, on va mourir avec toi, on n'a rien à faire avec ton problème, et on va mourir avec toi. Vous savez, un chrétien désobéissant, souvent, il ne faut pas dire c'est, ça ne me touche que moi. Il y a très peu de choses qui touchent que moi, hein, dans notre vie. On touche toujours les autres. Si on est père de famille, alors ça touche toute une famille. Si on est la mère d'une famille, ça touche toute la famille. Si on est un voisin, si on est un employeur, employé, un employeur, vous savez, dans la désobéissance, on n'est pas bien avec les autres, et ça touche tout le monde. Et Jonas, finalement, il dit, si le Seigneur ne me permet pas de partir, je vais mourir. Donc il dit, jetez-moi dans la mer. Comme si lui contrôlait ça aussi. Et Dieu prévoit la gueule d'un grand poisson qui le sauve, il l'empêche de mourir. Et en plus, qui le ramène jusqu'à la côte la plus proche de Ninive. Vous savez, la désobéissance, elle ne change pas le plan de Dieu. Et on n'aide pas Dieu en étant désobéissant. C'est dans l'obéissance, même si on ne comprend pas, et on doit suivre. Un certain Chris Anderson avait dit que Jonas était plus un patriote qu'un prophète. C'est-à-dire il cherchait à venger son pays plutôt que la cause de Dieu. C'est très bien d'être patriotique, mais on doit être des enfants obéissants. Finalement, Jonas est allé à Ninive, mais peut-être à contre-cœur, et il a dit ce qu'il fallait dire, mais sans conviction, sans rien du tout, avec en espérant que les gens ne croiraient pas. C'est vraiment une très mauvaise attitude. Mais vous savez, c'est la parole de Dieu qui agit dans le cœur, jamais la parole d'un serviteur, qu'il soit prophète ou autre. Dieu avait dit, et ce que Jonas a dit, c'était la parole de Dieu. La parole de Dieu, une parole de Dieu a suffisamment de puissance en elle-même pour agir dans les cœurs. Donc même une personne inconvertie, si elle cite la parole de Dieu peut agir. Jonas est allé, il a dit ce qu'il fallait dire, parce qu'il était obligé, parce qu'il n'avait pas envie de repasser un séjour dans le poisson. Et le peuple s'est détourné de leur... Ils ont déclaré un jeûne, ils se sont repentis, et ils se sont dit, qui sait si Dieu ne reviendra pas sur sa décision de nous détruire. Vous savez, ça, il arrive souvent que les gens du monde ont plus de crainte de Dieu que les croyants. Parfois, même s'ils ne suivent pas, mais ils ont une crainte de Dieu que les croyants semblent prendre assez à la légère. Malheureusement, c'est vrai. Je vous donne des exemples. Vous vous rappelez les deux espions que Josué a envoyés à Jéricho? Il arrive là-bas, les gens ils tremblaient devant Dieu, comme les enfants d'Israël n'avaient jamais tremblé. Ils auraient dû trembler. Ils ont dit, mais nous, on vous attend depuis 40 ans et on sait que vous allez venir. Bon, ils ne se sont pas repentis, mais ils avaient une crainte de Dieu. Un autre récit, c'est, si vous connaissez les histoires de l'Ancien Testament, à l'époque, juste avant Samuel, c'était le souverain sacrificateur Élie, les fils avaient pris l'arche de l'Alliance, ils l'avaient emmenée dans le camp. Parce qu'ils venaient de perdre une bataille, et donc le lendemain, ils prennent l'arche de l'Alliance pour obliger Dieu à être avec eux. Alors le peuple d'Israël criait, et les Philistins, au loin, ils ont entendu cela, ils ont dit, le Dieu des Juifs est avec eux. Et ils ont eu peur. Mais au lieu de revenir à Dieu, ils ont dit, ayons du courage. Bon, Dieu, vous savez, Dieu, on ne peut pas le forcer à aller où il ne veut pas aller. Si on est dans la désobéissance, ce n'est pas parce que vous portez une Bible dans la main que vous obligez Dieu à être avec vous. Dieu n'est pas une amulette qu'on transporte pour être protégé. C'est nous qui le suivons, c'est pas lui qui nous suit. Et alors, ou bien vous avez, comme je viens de le raconter, les matelots hein, dans le bateau avec Jonas, hein, eux-mêmes ils tremblaient, ils disent waouh, c'est grave. Et après qu'ils avaient jeté Jonas dans l'eau, ils ont imploré le Dieu et ils ont dit pardonne-nous, pardonne-nous. Ils avaient cette crainte. Mais bon, vous savez, la crainte de Dieu ne suffit pas pour changer un homme. Ce n'est pas parce qu'on a peur de Dieu, ce n'est pas parce qu'on croit en Dieu, ce n'est pas parce qu'on respecte Dieu que la vie est changée. Il y en a qui le font et ils prient Dieu quand la tempête passe, mais quand la tempête est là, quand ils sont dans la tempête, oh Dieu, délivre-moi, oh Dieu ceci, oh Dieu cela. Et puis une fois que la tempête est passée, ah, tout est calme, ça va mieux. Bon, maintenant, et puis ils reprennent leur ancienne vie. Celui qui a réellement rencontré Dieu, eh bien, c'est quelqu'un où il y a une transformation qui se fait dans son cœur et il vit pour Dieu dorénavant. Ça, c'est la vraie conversion. C'est pas seulement celui qui a tremblé pendant un certain moment. Hein, beaucoup de gens, dans leur vie, dans leur expérience, il y a un moment où ils ont tremblé devant Dieu, ils ont prié, ils ont crié à Dieu, ils ont chacun à sa manière. Mais c'est seulement celui dont la vie est transformée et qui continue à vivre pour le Seigneur, c'est celui-là qui a vraiment rencontré Jésus-Christ et rencontré Dieu au travers de Jésus-Christ. Celui qui a fait une décision comme ça au moment de crise, eh bien, vient un jour où il prend comme excuse le fait que les chrétiens sont hypocrites. Et même s'ils sont hypocrites, ça ne change rien. Toi, tu suis le Seigneur. Hein. Jésus a dit à Pierre, il a dit, mais peu importe ce qui arrive à Jean, toi, suis-moi. Mais certains vont se servir de dire, oh, l'Église, elle est remplie d'hypocrites, là. Ben écoute, si toi tu restes, il y en a encore un de plus. Et parfois, on se sert du fait que, oh, moi j'ai prié à Dieu, je lui ai demandé, mais il n'a pas répondu. Hein, bon, c'est pas la peine. Hein, et pour qui tu suis Dieu? Hein, parce que pour que lui, c'est l'assistante sociale qui t'aide quand tu as des problèmes? Ou est-ce que c'est toi qui le suis parce qu'il est Dieu, pas parce qu'il te rend service? Dieu n'est pas la roue de secours. Dieu est celui qui conduit le volant, hein. Vous savez, si on est adhérent d'une théologie, peu importe laquelle, si on est adhérent d'une certaine théologie, et c'est cette théologie qui nous conduit, dans mon église, nous croyons comme ça, et puis c'est tout ce qui est. Cela va emmener la personne à un comportement étrange. Parce que c'est pas le fait d'avoir la doctrine, et même si elle est juste, bon, il n'y a aucun qui peut prétendre avoir tout compris, hein. Et ce que je comprenais d'une manière il y a 3 ans, et je comprends un peu autrement aujourd'hui. Donc j'évolue. Hein, donc ne croyons pas. Hein, on pensera juste quand on sera dans la gloire. Mais ça n'empêche pas que nous devons chercher à être aussi biblique que possible. Hein. Mais si je suis strictement adhérent d'une théologie systématique, eh bien, je vais avoir des comportements bizarres. Il y a des gens qui sont adhérents d'une doctrine et d'une bonne doctrine même, hein, je dirais, parce que s'ils croient comme moi, c'est la bonne. Hein. Et alors, si, et pourtant, ils ont un comportement qui n'honore pas le Seigneur, parce que ça ne suffit pas. Ce n'est pas la confession de foi qui fait le chrétien. C'est la relation avec Dieu. C'est le fait de connaître Dieu qui va faire la différence. Vous savez, Pierre, le jour de Pentecôte, était rempli du Saint-Esprit. C'était quelque chose, bon, extraordinaire. Mais vous savez, du point de vue doctrinal, Pierre pensait faux, hein. Il pensait que Jésus était mort uniquement pour les Juifs. Il pensait faux. Mais ça n'a pas empêché Dieu de le remplir, se servir de lui. Bon, et Dieu, dans sa grâce, lui a appris un peu plus tard, il lui a fait une petite leçon particulière, personnelle pour lui, pour qu'il comprenne que Christ n'était pas uniquement pour les Juifs. savez, le fait que vous avez la bénédiction de Dieu et que Dieu se sert de vous, ça ne veut pas dire que vous avez tout juste. Hein. Ça veut dire que Dieu est un Dieu de grâce qui se sert d'instruments imparfaits pour faire une œuvre parfaite. C'est ça qui me rassure, sinon je me tairais aujourd'hui. Parce que j'en ai déjà dit des bêtises. Et certainement j'en dirai encore quelques-unes. Mais Dieu dans sa grâce, se sert de nous alors qu'il est en train de nous transformer. L'apôtre Paul, qui a pu révéler des mystères qui étaient cachés jusque-là, dira « Ah, de le connaître dans la puissance de sa résurrection et dans la communion de ses souffrances. » Paul, il est passé d'une certaine interprétation de la Bible à une autre. Une qui était sans Christ à une autre qui était avec Christ. Et pourtant, il a dit, c'est pas parce que j'ai la bonne interprétation, la juste interprétation. Il a dit, je veux connaître Christ. C'est la relation avec Christ qui importe. Et Jonas avait un problème à ce niveau-là. Il n'avait pas cette connaissance de Dieu, de savoir que tu n'as pas besoin d'aider Dieu, ni d'arranger les choses pour Dieu, ni de lui rendre service, ni de lui proposer des solutions. Hein, combien de nos prières sont remplies de solutions? Dieu, voilà, moi j'ai monté la chose, voilà, je vais faire comme ça, je vais parler, je vais faire ceci, cela, et puis toi, béni. Hein, c'est nous qui pondons l'œuf et c'est lui qui doit couver. Il dit non, ça fait que ça vienne de moi. Hein? Et c'est là où on a besoin de cette connaissance de Dieu, dire oh, je comprends comment Dieu fonctionne. Et là, je vais penser autrement, je vais agir autrement. Et parfois, nous essayons d'excuser Dieu en disant ben, Dieu est souverain. Hein? Et il est souverain, je crois qu'il est souverain, sa souveraineté. Mais vous savez, c'est facile de dire Dieu est souverain quand tout va bien. Mais le chrétien qui souffre, on lui dit Dieu est souverain, puis lui, il prend ça comme du fatalisme. Il dit, bon, ben, j'y peux rien. Hein. Dieu fait ce qu'il veut, puis moi, je subis. Mais c'est plus le Dieu de la Bible, ça. Ce qui nous importe, c'est bien sûr d'avoir une juste compréhension de la Bible, mais aussi d'avoir une bonne relation avec Dieu. De le connaître, d'essayer de comprendre afin de penser comme il pense. Il parle du renouvellement de l'intelligence. Pas juste une juste confession de foi, mais le renouvellement de l'intelligence pour que je pense comme il pense. C'est pour ça que nous avons l'Esprit de Dieu en nous qui nous aide et qui fait le lien entre les deux, qui nous aide à comprendre comment Dieu pense. Et puis après, il traduit ce que nous pensons pour le corriger, pour le présenter à Dieu. Par des soupirs inexprimables. Le fait que l'Esprit de Dieu ait cette fonction dans notre vie montre que nous, on n'est pas 100% juste. Et qu'on a besoin de cela. Dieu ne donne pas ça pour quand on n'en a pas besoin. L'importance de connaître Dieu. Et Jonas ne serait pas comporté comme cela s'il avait une juste connaissance de Dieu. Ensuite, il y a aussi Dieu dans sa patience va travailler avec Jonas pour lui montrer ce qu'on va appeler une idole du cœur. C'est-à-dire des fois, il y a des choses qui sont dans nos cœurs, qui sont cachées parfois même, cachées à tout le monde, mais auxquelles on est très attaché. Et finalement qui déteint sur tout ce qu'on fait pour Dieu. Parce qu'il y a quelque chose qu'on ne veut pas lâcher, qu'on garde dans notre cœur. On appelle ça l'idole du cœur. Et Dieu, dans sa patience, ici, dans ce chapitre 4, essaie d'attirer l'attention de Jonas sur ce problème. Et il commence par nous dire que Jonas, quand il a vu que les Ninivites s'étaient repentis, il nous dit que cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Imaginez, qu'est-ce qui peut agir dans le cœur d'un prophète pour que quand il voit du monde qui se repent devant Dieu et qui abandonne leurs péchés, qu'il soit irrité et qu'il soit très fâché. Et après, un peu plus tard, mais vous savez, regardez, mais au verset 2, il implora l'Éternel. Il a quand même osé parler à Dieu avec un cœur pareil. Il dit, Dieu, je t'avais averti. Et bien, regarde maintenant, comment tu vas faire? Et Dieu ne dit rien. Dieu dit, fais-tu bien de t'irriter? C'est tout ce qu'il dit. Parfois, Dieu, il dit plus dans une question que dans sa réponse. Il dit, est-ce que tu fais bien de t'irriter? Déjà. Vous savez, si jamais il y a une situation qui mérite, Dieu agit, et moi je suis irrité par la manière dont Dieu agit, le problème est toujours chez moi, hein, c'est pas chez Dieu. Dieu se trompe jamais. Alors s'il y a un truc qui me fâche, parce que Dieu a fait comme ça, pas comme ça, eh ben c'est que le problème il est chez moi. Hein. Il faut aller revoir et discuter avec le bonhomme dans le miroir. Hein. C'est jamais du côté de Dieu. Et pourtant, combien de fois on dit Dieu, oh là, ça va pas, non? Il dit non. Le problème est toujours de notre côté. Dieu ne se trompe jamais, par principe. Alors Dieu, mais comment expliquer ça à quelqu'un? Vous avez peut-être déjà rencontré des gens qui sont tellement sûrs d'eux, ils savent qu'ils ont raison et c'est impossible de leur parler. Et Dieu va essayer quand même de lui parler. Alors Dieu va faire, il va voir Jonas qui monte un peu comme ça sur les hauteurs pour un peu voir la ville. Il prend dans les gradins là, puis la première vue, première passe, et il veut voir ce qui va se passer. Comment Dieu va s'en sortir avec cela? Il met une petite cabane, un peu d'ombre là, parce que c'est quand même le Moyen-Orient. Et Dieu fait pousser un ricin. Ricin, donc c'est la famille des courgettes et des courges et tout ça, hein, donc avec des grandes feuilles. Et il fait pousser ça en une nuit, ça couvre et ça fait une climatisation naturelle. Tout d'un coup, il se sent, oh, c'est agréable. Et remarquez, il est à la fin du verset 6, Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Et après, alors Dieu dit, ah voilà, bon, maintenant, il va piquer le ricin, il va envoyer un ver qui va piquer le ricin, et le ricin, il va sécher en une nuit. Et en plus, Dieu va augmenter la chaleur, et le soleil va tomber sur la tête de Jonas. Et il va se fâcher encore. Parce qu'au verset 8, il nous dit, au lever du jour, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance. Et il demanda la mort. Donc il part dans une grosse déprime. Et peut-être même une dépression, parce qu'il demande la mort. C'est donc tout ça, ça n'arrive pas peut-être dans un jour. Mais il arrive au point où là où il a dit c'est pas la peine. Il vaut mieux être mort que dans cet état-là. Peut-être est-ce que vous êtes passé par des moments où vous avez pensé ça aussi. Mais Dieu revient encore, verset 9, et dit, fais-tu bien? La même question. Fais-tu bien de t'irriter pour le ricin? D'abord, il avait dit, fais-tu bien de t'irriter parce que les Ninivites ont été préservés. Jonas dit, oui, je fais bien, pas de problème. Alors maintenant, le ricin est mort. Et il s'est irrité, il dit, fais-tu bien de t'irriter pour le ricin? Il dit, tu as la même réaction pour ça et pour ça. Mais quand il y avait les grandes feuilles là, puis c'était le confort, là tu étais heureux, tu étais dans la joie. Il dit, tu te rends compte? Les choses qui te donnent de la joie et les choses qui t'irritent, tu as vu les valeurs que tu donnes? Quand c'est un peuple qui est sauvé, tu t'irrites. Quand c'est une plante qui est tuée pour laquelle tu n'as rien fait, tu ne l'avais même pas demandé, tu te fâches. Il dit, Jonas, regarde bien, est-ce que c'est normal? Il dit, finalement, quand c'est ton confort, quand c'est ton bien, quand ça va dans ton sens, tu es content. Et quand ça ne va pas comme tu veux, t'es pas content. Vous connaissez des gens comme ça? Hein? Il y en a peut-être plusieurs, même dans la salle. Et vous savez, mais Dieu dit, c'est pas comme ça, hein? Dit Jonas, t'es un petit problème, hein? T'es un petit problème. Vous savez, essayons de penser, la dernière fois où je me suis vraiment fâché, qu'est-ce qui l'a causé? Et la dernière fois que j'étais heureux comme tout, j'ai dit, oh, ça c'est super. Et comparer les deux, et voyez s'ils ont la même valeur. Si vraiment c'est des choses qui devraient nous amener à des extrêmes. Pareil. C'est parce que quelqu'un m'a coupé la voix. Alors j'ai dit, ben, celui-là, il devrait... Et puis j'ai pensé des choses. Et puis peut-être pour ma femme, elle m'a présenté une jolie tarte avec une petite cerise. Et oh, elle est gentille celle-là, qu'est-ce qu'elle est gentille. Vous savez, c'est fou. Ceux qui peuvent nous irriter, mais vraiment nous irriter, et ceux qui nous donnent un grand plaisir. Dieu dit, écoute, réfléchis un peu. Est-ce que ça correspond? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de valeur là? Hein, quand ça va dans ton sens, que c'est pour toi, c'est très bien, et quand c'est pour les autres, c'est pas bien. Hein? La jalousie, c'est parce que c'est pour les autres et pas pour moi. Hein? C'est ça qui provoque la jalousie. Tandis que l'amour, c'est je veux que ce soit pour les autres, même si c'est pas pour moi. Mais le plus souvent, hein, c'est on a un problème. Et Dieu, il a augmenté la chaleur parce que des fois, quand vous voulez vraiment faire ressortir quelque chose, alors on augmente la pression pour vraiment faire ressortir le problème. Dieu, dans sa grâce, il a fait ressortir le problème. Parfois, on reproche à Dieu nos soucis émotionnels alors que le problème est vraiment de notre côté. Et les conditions extrêmes, c'est pas le gros problème qui crée la dépression, mais c'est le fait que ces gros problèmes, eh bien, ils font ressortir. Hein, c'est bien de s'arrêter, de méditer, de revoir, d'évaluer la manière dont on a réagi à certaines situations. C'était une petite chose, c'était un mot, et puis moi je me suis fâché. Oh, quand même, j'aurais pas dû. C'était juste un mot. Dans d'autres conditions, les mêmes mots, ben, ils n'auraient pas fait la même chose. Et finalement, cette parole de quelqu'un m'a provoqué et a provoqué plus de réactions chez moi que lorsque Jésus m'a donné un verset. Et puis j'ai dit, ah, c'est beau. Et puis j'ai continué la journée sans y penser. Vous savez, des fois, on donne beaucoup d'importance à une parole de quelqu'un plutôt que donner de l'importance à la parole de Dieu. On l'a tous, on est tous coupables. Si vous ne l'êtes pas, moi je le suis. Et vous savez, mais Dieu nous reprend. Il dit, écoute, arrête. Réfléchis un peu. Oui, je t'aime bien, tu es un prophète, tu m'as servi, tu as fait beaucoup de bonnes choses pour moi, ça je t'accorde. Mais il y a un petit problème, et là il faudrait qu'on le règle. Et Dieu dit, Jonas, tu es en train de te fâcher pour quelque chose pour lequel tu n'as rien fait. Et c'est venu en moins de 48 heures, c'est venu et c'est parti. Et toi, tu es dans la déprime pour des semaines. Il dit, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Soyons plus affectés par ce que Dieu dit que par ce que quelqu'un d'autre dit. Et alors, j'arrive à cette dernière pensée. Il a dit, c'est l'importance de connaître Dieu, l'importance d'identifier l'idole du cœur. Ça nous rendrait service. Et puis la dernière chose, Dieu arrive à la fin du chapitre 4. Il dit, Jonas, c'est important que tu vois les choses comme je les vois. Il dit, pour toi, cette ville. Et Dieu dit, une ville où il y a 120 000 hommes qui ne connaissent pas la différence entre leur droite et leur gauche. Alors bon, les gens, ils ont pensé des choses, soit c'est des enfants, hein, c'est de tout petits enfants qui ne connaissent pas la différence entre la droite et la gauche, d'autres ont pensé peut-être c'est des handicapés, peut-être. En tous les cas, il a dit, il y en a 120 000. Je dirais 120 000 de n'importe qui, c'est beaucoup. Il dit, 120 000 qui sont sauvés, tu te fâches, et pour un ricin qui est venu et qui est parti en peu de temps, ça te dérange. Il dit, ça va pas. Il dit, tu comprends pas pourquoi que moi, j'ai pitié de ces gens. Vous savez, c'est important pour nous de penser comme Dieu pense, de voir le monde comme Dieu le pense. Souvent, nous pensons à certaines catégories de personnes. Pourquoi ? Parce que ça nous dérange quelque part, de près ou de loin. Et alors ces gens-là, parce qu'ils viennent de tel endroit, parce qu'ils pratiquent telle chose, parce qu'ils sont sous le contrôle de certaines drogues, parce qu'ils sont... Pour toutes sortes de raisons, on a des catégories de gens ces gens-là, ils nous dérangent, de près ou de loin. Mais il dit, mais ces gens-là, pour Dieu, quand il regarde à quelqu'un, n'importe qui, qu'il soit né handicapé ou qu'il se soit rendu handicapé par sa bêtise ou par la méchanceté de quelqu'un d'autre, Dieu dit, mais c'est quelqu'un qui a été créé à mon image. Il dit, quand je le regarde, je vois un être créé à mon image. Pour moi, il est important. Je veux tout faire pour le sauver. Et je suis prêt à le sauver. Dieu était disposé à sauver. Il a dit, Ninive, je dois vous détruire, mais s'il te plaît, repentissez pour que je ne sois pas obligé de vous détruire. C'est un peu comme ça que Dieu parle. Et c'est un peu comme ça, c'est tous les messages de l'Évangile. Dieu dit, vous êtes pécheurs, vous devez être détruits pour toujours. Et puni éternellement dans l'enfer parce que vous êtes pécheur. Mais de grâce, acceptez mon Fils Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour vous. Et soyez sauvés. Ça me ferait un tel plaisir de sauver votre vie. Jonas ne voyait pas les choses de cette manière-là. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous qui avons bénéficié de cette grâce de Dieu, eh bien, nous devons voir les choses telles que Dieu les voit. Ma question terminant, c'est est-ce que j'ai un ricin dans mon cœur, dans ma vie ? C'est-à-dire, est-ce que j'ai une idole du cœur ? Et Dieu, peut-être, il est en train d'essayer de m'en parler. Il a besoin de faire une intervention chirurgicale. Il doit m'en parler d'abord et puis que je sois prêt parce qu'il ne s'impose pas, il ne se force pas. Il veut que je voie le problème et que je l'admette et puis il a dit après je vais t'aider à l'enlever. Il dit peut-être tu as un problème, tes réactions c'est parce que tu ne me connais pas bien. Et tu as des réactions de religieux mais tu n'as pas des réactions de chrétien. Ou peut-être est-ce qu'il dit écoute. Tu ne vois pas comme je vois. Et tu t'irrites pour les choses qui ne méritent pas moi. Et tu te réjouis pour des choses auxquelles tu n'as rien fait. C'est important pour nous. Hein, c'est Dieu a pris le temps avec Jonas pour lui faire voir cela. Et je suis sûr que, puisque la fin du chapitre termine comme ça, je suis sûr que Jonas a vu. Et comme j'ai dit tout au début, je suis sûr que le chapitre 5, c'était un autre prophète. Et je vous propose aussi, c'est pour nous aussi dans notre vie chrétienne, oui, on a des chapitres dont on n'est pas fier. Et il y a des chapitres qui soulignent le fait que Dieu intervient. Mais vous savez, c'est afin de nous donner des beaux chapitres après. On a toute l'histoire du fils prodigue, on a toute la partie désagréable. Mais ça termine avec, il est assis avec son père dans la maison et dans la musique. Et je me dis, la suite, ça devait être beau. Mais parce qu'il y avait un travail qui avait été fait dans le cœur. Et Dieu veut faire la même chose pour chacun d'entre nous. Et nous devons nous donner à lui. Nous allons baisser nos têtes. Et on va avoir quelques minutes de silence. Si Dieu vous a parlé par rapport à quelque chose... eh bien, faites-lui déjà une prière maintenant. Dites-lui, Dieu, je vois ce que tu montres de ton doigt et aide-moi avec cela. Faites une prière, puis ensuite je prierai.